m'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. La session parlementaire ordinaire s'est ouverte ce 15 mars au Palais du Peuple après quelques mois des vacances parlementaires. Certains observateurs estiment que les questions législatives liées notamment à l'examen et au vote de la loi électorale devaient être prioritaires, tandis que d'autres souhaitent que la situation sécuritaire soit au centre de plusieurs initiatives, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors comment commentez-vous cela? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 0 81 890 49 69 et vous avez également la possibilité d'interagir avec nous, soit sur notre page Facebook ou encore sur www.radiokapi.net. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Alain Goy et Anania Mabondo Jiré concourent à la production et à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Jean-Baptiste Mouindo, monsieur le député élu du Nord Kivu. Monsieur Mouindo, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, d'entrée de jeu, la question qui vous préoccupe et que vous inscrivez dans la liste de points prioritaires à débattre au niveau de cette session ordinaire, c'est la question sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui motive votre position?
Ma position est motivée par le caractère extrêmement grave de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, principalement en territoire d'Irumu et en territoire de Beni. Rien qu'en 3 jours, du samedi 12 mars au lundi 14 mars, au moins 79 compatriotes ont été massacrés. À 311 jours de l'état de siège, c'est-à-dire depuis le 6 mai 2021 jusqu'au 14 mars de cette année, nous avons dénombré pas moins de 2068 Congolais tués, ce qui donne une moyenne de 7 civils tués par jour. La période de la mutualisation qui a commencé le 30 novembre 2021 jusqu'au 14 mars, ça fait 104 jours, nous avons compté 380 civils tués et parfois la frontière avec l'Ouganda, ce qui donne une moyenne d'au moins 4 civils tués par jour. Pourtant, l'Assemblée nationale avait adopté des recommandations pertinentes depuis le mois de septembre. Bien plus, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté la loi d'habilitation pour accorder au gouvernement toutes les prérogatives extra-légales afin de permettre à l'armée et aux services de sécurité de ramener la paix et la sécurité, comme l'a chanté un Congolais, Nini Tosalité. Il est donc temps qu'au cours de cette session, la question prio-sécuritaire soit au centre parce que à Bunia, au sud Kivu, au nord Kivu, on est dans l'impossibilité de réfléchir au processus électoral pendant que les électeurs, pendant que les candidats potentiels sont en train d'être égorgés. Cette question-là mérite donc toute son attention au cours de cette session parlementaire.
Alors, honorable Jean-Baptiste Mouindo, qu'en est-il de la commission défense qui a mené des enquêtes dans cette partie du pays et qui a même mis, en tout cas, un rapport à la disposition du bureau de l'Assemblée nationale?
La commission défense et sécurité a fait son travail. En date du 29 septembre 2021, le rapport a été adopté par l'ensemble, la plénière de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire par tous les 500 députés. Ce n'est donc plus un rapport de la commission, c'est un rapport de l'Assemblée nationale et le gouvernement se doit de le respecter. Parmi les recommandations urgentes contenues dans ce rapport,
L'Assemblée nationale avait demandé à la hiérarchie de notre pays de procéder sans attendre à un changement de la chaîne de commandement dans les zones sous état de siège jusqu'au niveau central, jusqu'à l'état-major général. Depuis tout ce temps, aucun changement n'a été opéré, comme si les équipes qui perdent peuvent continuer à être récompensées indéfiniment. Parmi les recommandations, la commission avait demandé que le ministre de la Défense présente un plan de sortie de l'état de siège, étant donné que selon la Constitution, l'état de siège a été proclamé pour 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 311 jours. Et l'Assemblée avait bien dit au gouvernement, à travers les recommandations, que l'état de siège n'est pas destiné à durer le plus longtemps. Et aujourd'hui, nous assistons à des violations systématiques des droits de l'homme. Les cachots sont pleins dans un territoire comme Mambasa. Nous avons même dénombré les cas d'un officier qui, en une année, s'est arrogé plus de 200 cas déjà arrêtés arbitrairement qui étaient soumis à payer 500 dollars chacun pour être libérés. Nous avons dénombré des cas graves à ville de Goma, aller à l'auditorat, où des activistes de mouvements citoyens comme à Beni sont arbitrairement arrêtés pour avoir dénoncé l'inefficacité des opérations militaires pendant l'état de siège. Et ils sont là très malades. Le tribunal s'interdit de prononcer leur jugement dans le Masisi, dans les Rutshuru, dans les Djougou, les Irumu, les Haru. Vous avez suivi les images au sujet de la prison des Haru qui est un mouroir où les gens, au moins 4 prisonniers, meurent chaque jour. Donc, ces recommandations-là qui ont été adoptées par l'Assemblée doivent faire une évaluation sans complaisance et je suis content que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mboso Kodia, ait martelé pour dire que nous allons mettre un accent sur les niveaux d'exécution de ces recommandations. Eh bien, je peux vous dire que le gouvernement jusqu'ici n'a mis en œuvre aucune recommandation, raison pour laquelle j'ai personnellement une question orale avec débat pour que le ministre vienne nous dire pourquoi la situation s'enlise en dépit de toutes les faveurs extra-légales et même financières qui ont été accordées à son ministère et à l'armée.
Alors donc, si je comprends bien, au cours de cette session, il y aura également un débat sur cette question sécuritaire, avec notamment la question orale avec débat initiée par vous, pour que le ministre de la Défense puisse apporter quelques éclairages quant à ce. Mais pensez-vous que cette question orale avec débat aboutira réellement à des sanctions? Parce que vous avez constaté, selon vos propos, une certaine léthargie, un certain laxisme du côté du gouvernement dans l'exécution de ces recommandations.
Alors, je note depuis la rentrée parlementaire d'hier que à partir de leur séjour dans les différentes circonscriptions électorales, tous les élus de l'Ituri et du Nord Kivu sont unanimes pour dire, pendant le temps passé, pendant les sessions parlementaires passées, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils donnent une chance, n'est-ce pas, au ministre et au chef du gouvernement pour faire aboutir ce qu'il avait promis dans le programme du gouvernement. D'ailleurs, dans le programme, le premier ministre avait dit à l'axe 1, à la page 9 de son document de programme, qu'il allait instaurer un état d'urgence sécuritaire. Après avoir prêté serment devant le gouvernement, promettre l'état de siège sécuritaire, l'état d'urgence sécuritaire, 7 jours après, il nous a surpris, il a court-circuité ce qu'il avait dit pour instaurer l'état de siège. Donc, j'ai noté dans les chefs de mes collègues de Nord Kivu, de l'Ituri, la volonté de rompre avec la léthargie et toute complaisance à cette matière. Mais également, je sais que en novembre, lorsque nous avons exigé le début de la mise en œuvre de la recommandation exigeant un plan de sortie de l'état de siège, les collègues du Sud Kivu, de la Tchopo, de Haute-Ouélé, de Bazouélé, et plusieurs députés patriotes de Kinshasa et de toutes les provinces se sont déclarés solidaires avec nous. Et donc, pour cette session qui commence, je pense que le ministre de la Défense, avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu Territory, mais également avec l'état-major, tous ces gens-là devraient bien serrer leurs ceintures parce que les électeurs, nos populations qui nous ont mandatés, sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de tous les élus. Et lorsque la pression de la population monte à l'endroit des élus, les élus doivent également faire monter la pression
vers
à l'endroit de ceux-là à qui nous avons donné la charge de l'exécutif en matière sécuritaire, comme dans toutes les autres questions qui sont dans l'ordre du jour de cette session parlementaire.
Voilà. Alors, honorable Jean-Baptiste Mouindo, élu du Nord Kivu, nous vous gardons en ligne. Les débats, c'est aussi les auditeurs qui participent à cette émission sur la question de la rentrée parlementaire, qui doivent être des sujets prioritaires selon vous. Mais d'entrée de jeu, les points qui sont notamment, qui reviennent souvent hein, dans le chef des uns et des autres, c'est la question de législatif et aussi cette question sécuritaire que vous évoquez. Alors, Maître Paty Lendo, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous. Bonjour, Maître Paty.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de la petite échelle onusienne.
Alors, pensez-vous que la question sécuritaire, comme vient de le dire honorable Jean-Baptiste Mouindo, serait également prioritaire aux côtés de cette question législative?
Non, mais tout est prioritaire au Congo. Il faut reconnaître que nous sommes partis pratiquement d'une sorte de néant, et du néant rien ne peut aboutir. Donc il est vrai que la question sécuritaire est aussi prioritaire, autant je dirais la question sanitaire, la couverture en santé du peuple congolais pose aussi problème. Quel est l'état de la législation en matière
électorale,
la couverture sanitaire du peuple congolais? Ça pose des problèmes. Chaque fois qu'il m'arrive de faire un tour dans nos institutions de santé, et pour ne prendre que les deux cas, sanatorium et l'hôpital de référence de Kinshasa. Et l'hôpital de référence de Kinshasa. Mais je vois des choses. Et je me demande quel est le droit du malade congolais face au médecin, face à l'institution qui l'héberge. Ça pose aussi des problèmes. Donc, il faut reconnaître qu'il n'y a pas un seul problème qui soit prioritaire à l'autre. Il faut appeler nos députés, nos sénateurs à faire le travail avec l'État. Si dans l'État on ne fait rien, on ne fait qu'accumuler les différents arriérés du travail, et c'est ce qui ferait que à la prochaine session d'octobre il y aura aussi des débats. Quels seraient les problèmes prioritaires? Je ne pense que ce soit une bonne méthode de faire le travail. Mais aussi, je pourrais vous dire, l'état de nos droits de l'homme. J'en suis moi-même victime. Quelle est la couverture législative en matière de protection du citoyen congolais devant les droits qui lui sont universellement reconnus?
Oui, Maître Paty, qui trop embrasse mal étreint, dit-on, le gouvernement congolais n'a pas la capacité d'aborder toutes les questions à la fois. Alors, c'est pourquoi nous disons, cette rentrée parlementaire, nous sommes à une année des élections. Les uns disent, voilà, il faut accorder le bénéfice de l'urgence, notamment à la question, sur les questions législatives liées, notamment à l'examen et au vote de la loi électorale. Et l'honorable Jean-Baptiste, lui, insiste, comme tant d'autres députés, sur la question sécuritaire, notamment la levée de l'état de siège dans la partie est du pays.
Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable lorsqu'il évoque la rotation qui va avoir au sein de la chaîne de commandement en rapport avec cette situation sécuritaire de l'Est. Nous l'avons dit, ce n'est pas normal. Les gouverneurs militaires, les administrateurs militaires de nos différents territoires l'ont été par rapport à étant donné. Mais lorsqu'ils sont là, ça fait maintenant plus d'une année. Mais ils s'enlisent davantage à tout ce qu'on a toujours décrié. Il faudrait qu'on brise cette permanence du personnel militaire au niveau de province. Il faut qu'on en change. Même s'il faut proroger, mais il faut qu'on en change pour que les gens ne puissent pas pérenniser leurs mauvaises habitudes et dont nous ne saurions pas parler maintenant. Mais vous avez évoqué la priorité électorale. Mais attention, ne prenez pas les élections comme étant bien fermées hermétiquement. On ne peut pas parler élections lorsqu'on n'a pas résolu certains quoi que au niveau de la justice. On ne peut pas parler élections si on n'a pas assaini la question des droits de l'homme. Tout ça va de pair. À moins que vous fassiez des élections, une structure mécanique où on appelle les gens, ils vont dans des urnes. Après, nous savons ce qui s'ensuit. On vole des urnes, on brutalise les électeurs, on vole les procès-verbaux, mais tout ça, ça pose des problèmes. Nous pensons qu'il y a une manière intelligible, une manière citoyennement responsable de faire les choses. Donc, pour nous, les méritocrates, la question liée à l'organisation des élections ne doit pas laisser de côté la question liée à l'administration de la justice, la question liée à l'état des droits de l'homme pour ne se limiter qu'à cela, et aussi la question liée à l'affermissement de notre citoyenneté. On va à notre électeur avec quel électeur? Quels sont les axiomes? Quels sont les paradigmes? Quels sont les agrégats électoraux qui entreront en compte pour fonder notre sociologie politique? Ce sont des problèmes que nous voyons. Mais on fait des choses de manière mécanique. On croit que les électeurs, ça dit, pondre une loi électorale qui ne sera pas respectée non plus, mais c'est déjà au niveau de la CENI qui vont poser des problèmes demain. Nous pensons que ça, c'est pas une bonne manière de le faire.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Paty. Nous vous gardons également en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ces niveaux d'échange. Et nous reviendrons également à vous, honorable Jean-Baptiste Mouindo. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui se penchent aujourd'hui sur la rentrée parlementaire. Selon vous, quelles sont les priorités à retenir au cours de cette session ordinaire de mars? Alors, Maître Alidor, vous nous avez rejoint, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à l'honorable Jean-Baptiste.
Alors vous, vous êtes à Kananga, vous dites que la session parlementaire qui s'ouvre, qui s'est ouverte hier, est cruciale. Que voulez-vous dire par là?
Oui Monsieur Gilles, cette session qui s'est ouverte hier, c'est une session de tous les enjeux, dans la mesure où beaucoup de matières passent pour des priorités, et cela doit retenir l'attention des représentants au niveau national. Monsieur Gilles, nous sommes à une année des élections en République démocratique du Congo, tandis que le cadre légal ou la loi électorale telle que nous l'avons aujourd'hui pose beaucoup de problèmes et il y a des réformes qu'il faut entreprendre pour élaguer beaucoup d'aspects qui sont en train aujourd'hui de diviser l'opinion. La question du seuil électoral, la question des sièges, la question de l'autonomie de la CENI et bien d'autres. C'est comme ça que les députés doivent et les sénateurs doivent vraiment prioriser les réformes électorales au cours de cette session du mois de mars pour permettre à la population congolaise d'avoir des bonnes élections et des élections apaisées en 2023. Le cas contraire, ça sera un glissement qui dit son nom, qui sera en train de se préparer au cas où l'attention des députés ne serait pas donc accordée à des réformes électorales. Sur le plan social, M. J.R., vous allez vous rendre compte que le Premier ministre Samalou Kone a hier présenté un programme d'action ambitieux et un programme qui, si seulement il a été mis en exergue, il allait répondre aux désidérata de la population. Mais malheureusement, le social de la population congolaise est resté statique. Rien n'a changé. Donc, avant Samalou Kone est égal à pendant Samalou Kone, aujourd'hui, plus de 10 mois après l'investiture de son gouvernement. Les conditions sociales sont restées les mêmes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'infrastructure de base, la misère générale, la famine. Donc, aujourd'hui, la population congolaise voit donc sa misère en train d'aller de mal en pis. C'est comme ça que nous disons, le député doit interpeller d'abord le Premier ministre pour venir dire qu'est-ce qui bloque la mise en pratique ou en mise en action de son programme qu'il avait présenté. Il avait juré de mettre en exergue son programme d'action, mais sur terrain, dans la vie pratique, rien n'a changé. Alors, on ne sait pas comprendre. La question sécuritaire, aussi, c'est une priorité, M. J.R. Chaque jour qui passe, nous avons nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie dans la partie Est. Alors que il y a eu l'institution de l'état de siège, il y a eu mutualisation des forces entre les FARDC et les IPDF, mais on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est comme ça que les députés doivent vraiment jouer leur rôle en invitant le...
Alors, donc, si je comprends bien, vous souhaitez que...
Le ministre de la Défense et aussi de l'Intérieur, pour pouvoir éclairer la lanterne de la population, pourquoi ces groupes, les groupes armés qui sont actifs dans cette partie du pays, on ne sait pas les maîtriser. Qu'est-ce qui est derrière ces groupes-là? Qui est derrière? Qui est pourvoyeur de fonds? Donc, ce sont là les priorités pour moi qui peuvent faire que cette session de mois de mars, si seulement elle s'en tenait à cela, nous pensons que les députés doivent vraiment bien jouer leur rôle et on peut espérer de bonnes choses dans l'avenir.
Merci beaucoup, Maître Alidor Mampouya, d'avoir appelé de Kananga. Et nous notons qu'effectivement, les deux questions prioritaires pour vous, c'est qu'il faut... un accent très particulier sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, et aussi cette question électorale, parce que vous avez plutôt insisté sur le programme, les niveaux d'exécution du programme du Premier ministre qui prenait en compte plusieurs aspects sociaux qui pourraient améliorer les conditions de vie des populations. Alors donc là, merci beaucoup. Alors on va prendre Xavier Kétel Mbachi. Xavier, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs auditrices de la Radio Capi.
Vous avez la parole, Xavier. Quel est votre avis?
Merci. En prélude, je dirais que mon avis, si premièrement, je dirais que, en tout cas, rien ne peut justifier à ce que la question sécuritaire soit placée au second plan. En tout cas, rien dans cette session.
Vous estimez qu'au premier plan, il faut mettre un accent et un débat houleux, sérieux, au niveau du Parlement, en ce qui concerne la sécurité dans l'Est du pays.
Oui, il faudrait qu'en tout cas, on puisse mettre l'accent, qu'on puisse mener un débat des raisons, un débat très rationnel et très efficace en ce qui concerne la question de sécurité, parce que c'est du jour au jour que nous comptons de morts, nos frères et sœurs qui tombent surtout à l'Est du pays. Alors pour ce faire, il faudrait qu'on puisse venir avec efficacité, qu'on puisse chercher des stratégies, cette fois-ci efficaces, pour qu'on puisse quand même mettre fin à cette tuerie, à ce carnage à l'est du pays. Mais cependant, moi je dirais, cela n'empêche en rien à ce qu'on puisse débattre aussi, on puisse aligner au moment opportun, et surtout, je dirais, le plus vite que possible, la question de révision de la loi électorale. Pourquoi je le dis? Parce que la question sécuritaire, ça n'a pas commencé aujourd'hui, on n'a pas commencé à débattre aujourd'hui, ce n'est que la continuité, mais qu'il faut mettre l'accent.
La question sécuritaire date, mais pourquoi la solution n'est toujours pas trouvée?
Oui, la solution n'est pas trouvée parce que, comme vous voyez, c'est-à-dire les stratégies et les techniques qu'on met en place ne répondent pas à la réalité ou à l'envergure de la menace que nous connaissons de la part de groupes armés extrêmement mortifères, l'hydre de la RDC qui nous menace au quotidien, c'est-à-dire nous mettons en cause la politique, les techniques, les stratégies mises en place. Jusque-là, ça ne résout pas, c'est-à-dire ça ne fait un déphasage avec l'envergure de l'attaque, des attaques que nous sommes en train de connaître. Cependant, ici, lorsque nous sommes en train de souhaiter à ce que la question de révision électorale soit mise à table pour que nous ne puissions pas être en retard, pour que ça ne puisse pas mettre en cause la tenue des élections, surtout présidentielles, en 2023, les raisons sont les suivantes. Ici, nous voulons, premièrement, parce que j'ai suivi récemment, ça doit être hier, parce que moi, je signale au passage que je suis un auditeur passionné de la Radio Capi. J'ai suivi sur Radio Capi certains députés qui disaient que, si c'est certains députés ou bien certains analystes, qui disaient que non, la loi électorale, nous cherchons à faire que le problème là des familles, quand quelqu'un est élu, par exemple, le suppléant des familles, etc., on va essayer de l'allier, on va essayer de revoir cette question. Mais je dis non, quand vous voyez cette question, moi j'appelle à nos compatriotes congolais afin que nous puissions aller au bout de la logique, afin que nous puissions chercher le vrai problème. Ici, nous devons nous attaquer aux racines de problème. Quelles sont ces racines là-bas? C'est-à-dire, quand vous voyez ici, il faudrait, ce que moi je proposerais, je profiterai de ce micro, il faudrait que, ici, qu'on puisse avoir, lorsque quelqu'un se présente comme candidat à la députation nationale, qu'il garde seulement la candidature de la députation nationale, qu'il ne puisse pas être en même temps candidat à la députation provinciale, au gouverneur, sénatorial, etc. Alors, quand on essaie de résoudre la question de la sorte lors de la révision de la loi électorale de cette fois-ci, cette fois-là, vous allez voir que ce problème sera totalement résolu. Et ça va tomber de soi. Vous n'aurez pas de parlementaires familiaux, de histoires comme ça, le suppléant familial, etc. Vous allez voir que ce problème sera résolu. Mais je profiterai aussi de l'occasion pour dire que lorsqu'on va revoir la loi électorale, il y a beaucoup de choses vraiment qu'il faut revoir. Nous voulons à ce que les élections présidentielles puissent revenir à deux tours. Ça, c'est très, très important. Nous voulons qu'on puisse, par exemple, supprimer, je sais que c'est très difficile, peut-être là ça peut entraîner le changement de la Constitution, car moi je suis contre d'ailleurs au changement de la Constitution, qu'on puisse supprimer surtout à la longue, on va réfléchir à la longue, qu'on puisse supprimer les institutions budgétivores, en l'occurrence
nous voyons les
assemblées provinciales, le sénateur...
Alors Xavier, merci beaucoup, on ne saura pas à vous garder parce qu'il y a beaucoup d'autres auditeurs qui attendent intervenir dans cette émission. Nous notons que vous avez appuyé les premiers invités qui a insisté beaucoup plus sur la question sécuritaire, et en même temps vous avez rejoint également notre deuxième invité, Maître Patty Elendo, sur cette question électorale, parce que nous en sommes à une année déjà avant l'organisation des élections de 2023. Merci beaucoup Xavier. Alors on va prendre Christian, je crois. Christian Politassi qui nous a également rejoint. Christian Politassi est à Kinshasa. Alors Christian, bonjour Christian.
Bonjour Géry, bonjour à l'invité.
Quelles sont selon vous les questions prioritaires à débattre au cours de cette session ordinaire?
En tout cas, s'il faudrait analyser en termes de priorités, je dirais que les priorités stratégiques sont vraiment partout. Mais cependant, s'il faudrait être beaucoup plus conséquent, je dirais que certaines sont tenables, mais d'autres ne le sont pas. Alors parmi celles qui sont tenables, je vois notamment l'adoption des lois, beaucoup plus de lois, les lois électorales. Parce que les autres, leur mise en exergue demande beaucoup plus de moyens. Par exemple, la question liée à l'amélioration des conditions de vie de la population. En tout cas, depuis 5 ans, cette question n'a pas été, je dirais, d'une manière claire, traitée. Et en une année, en tout cas, répondre ou agir d'une manière de sorte que les pouvoirs publics puissent mettre des stratégies afin de résorber cette situation, ça sera trop difficile. Et au-delà de ça, il y a encore cette question, toujours dans le cadre de priorités, il y a encore cette question de... je vais rester seulement sur ces deux questions. La question de l'amélioration des conditions de vie, mais aussi la question des lois électorales. Donc il faudrait ici beaucoup plus s'établir sur cette question, la question qui est réalisable, parce que nous avons un Parlement qui est fonctionnel, et donc il y a possibilité de résoudre cette question.
Quel regard portez-vous sur la question, la situation sécuritaire dans l'Est? Est-ce que cette question ne peut-elle pas faire l'objet également d'une question prioritaire au cours de cette session?
Bon, je vois que déjà lors d'une session parlementaire, il n'y a pas qu'un seul sujet qui est traité. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Mais cependant, ici, les efforts concernant la sécurité, ce sont également des efforts qui sont, en tout cas, depuis un certain nombre de temps, regardés avec beaucoup d'attention. Il y a eu l'état d'urgence et d'autres mécanismes, d'autres mesures ont été prises dans ce sens. Et donc la question sécuritaire demeure également une question, on ne peut plus impérieuse. Et donc il faudrait prendre en compte cette question parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui en tout cas penser à une intégrité territoriale sans pour autant qu'il y ait la paix dans la partie est de notre pays. Mais la question en tout cas de redistribution, la redistribution du budget, je le vois en tout cas irréalisable et en ce moment, à moins que l'on arrive justement à dissoudre les institutions budgétivores ou encore à réduire le temps de vie du gouvernement, mais aussi du Parlement, ce qui n'est pas d'ailleurs facile, parce que d'aucuns, en tout cas, sont ceux-là, en tout cas ceux qui sont au pouvoir, ne voudront même pas l'entendre de cette oreille-là. Et donc, même eux-mêmes, les députés qui sont là, voilà, ils ont des émoluments, mais ils préfèrent encore aller au gouvernement. C'est pour dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter que leurs émoluments, encore les temps de vie du gouvernement soient réduits à la baisse. Donc, ce sont des questions, en tout cas, qu'il faudrait peut-être remettre pendant les élections prochaines. Et il faudrait que c'est sur base de ces questions que la population constate que son besoin le plus pressant n'a pas été pris en exergue. Et bien, c'est fait qu'il puisse sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont géré le pays et ceux qui n'ont pas tenu compte de ces desiderata. C'est de cette manière que nous pouvons ramener justement les gestionnaires du pays à avoir à se pencher sur le vécu quotidien de la population. Sans cela, Ngembo, attendre la bonne volonté de nos dirigeants, en tout cas, c'est ça sera très difficile. Nous allons toujours continuer à parler, mais rien ne va changer. L'homme politique congolais, lorsqu'il est dans l'opposition, eh bien, il a un discours proche de la population, et une fois aux affaires, il change de discours. Nous avions vu après le dédoublement des partis politiques en 2016, et nous le voyons aujourd'hui. Même ceux-là qui, en tout cas, étaient des donneurs de leçons hier, aujourd'hui, en tout cas, l'histoire les a rattrapés. Et donc, ce n'est que le peuple qui peut sanctionner hein, ce genre de comportement afin que le récidive ne soit pas au rendez-vous dans la gestion de la reste publique à Jérémie.
Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Parole aux auditeurs se poursuit dans cette émission consacrée à la session, à la rentrée parlementaire. Nous avons Jean-Baptiste Mouindo, élu du Nord Kivu, qui est avec nous. Honorable, vous êtes avec nous. Vous êtes encore en ligne. Alors, quelle est votre réaction après avoir écouté cette série des auditeurs?
Non, je salue la pertinence des observations des auditeurs de Kananga, de Lubumbashi, de Kinshasa. Je note que, de commun accord, tous les intervenants sont unanimes que la question liée aux élections est prioritaire. La question de la sécurité à l'est de la RDC est prioritaire, de même que la question liée à l'amélioration des conditions de vie des populations, et cette amélioration des conditions de vie qui va de pair avec la réduction du trait de vie des institutions. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, J.R., un mot au sujet de la question sécuritaire au cours de cette session. J'ai noté des observations de plusieurs compatriotes tant à l'est, au nord, à l'ouest de la République comme au sud, qu'il serait inexcusable dans les chefs des députés nationaux et sénateurs qu'au 15 juin 2022, c'est-à-dire à la fin de la session parlementaire à court, que le Parlement vote à nouveau une loi d'habilitation à faveur du gouvernement, pour que le gouvernement continue à prolonger l'état de siège jusqu'au 15 septembre 2022. Parce que cela aurait des conséquences graves, non seulement sur le déroulement du processus électoral dans les zones concernées, mais également, au cours de cette session, parmi les questions qui méritent une attention particulière en termes de contrôle parlementaire, c'est ce fameux programme de 145 territoires. Un contrôle rigoureux s'impose. Le gouvernement dit qu'il y a un plan de développement, que des investissements seront donnés dans les 145 territoires de notre pays. Si un contrôle rigoureux n'est pas fait, nous risquons d'assister à un scénario du genre zaïanisation où des individus vont se partager le budget de l'État entre familles politiques, membres de la majorité parlementaire, pour dire tel honorable voudrait avoir des élus ou tel chef de parti regroupement voudrait avoir des élus au Lualaba, dans les Sankourou, dans les Kalemi, à Boudjala ou dans les Tchouapa. Ils se distribuent de l'argent et au bout des comptes, cet argent-là va disparaître. Donc cette question-là mérite vraiment un contrôle sérieux, non seulement de la part des élus, mais un contrôle citoyen par les organisations de la société civile. Autre chose que je voulais dire, pour ce qui concerne l'état des sièges, étant donné qu'il est inimaginable
qu'au 15 juin 2022, la loi d'habilitation soit à nouveau votée. Parmi les mesures, les questions de contrôle figurent les finances des provinces sous état de siège. Ça fait bientôt une année que des gouverneurs militaires votent, élaborent les budgets, exécutent les budgets sans aucun contrôle. Ils doivent déjà préparer tous les documents de remise et reprise, surtout qu'il y a déjà un coordinateur des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et FARDC, et donc la nécessité d'un gouverneur militaire ne se pose plus. La loi, l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège confie la conduite des opérations militaires au gouverneur militaire, mais maintenant la conduite des opérations a à nouveau été confiée au coordonnateur des opérations conjointes, ce qui fait dire que, même implicitement, l'auteur de l'ordonnance portant proclamation de l'état de siège, a nommé un coordonnateur des opérations conjointes, a implicitement signifié au gouverneur militaire qu'ils doivent désormais commencer à préparer tous les états financiers, tous les états de l'administration remise, reprise au cours de cette session parlementaire. Et là, à ce sujet, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur doivent être interpellés et commencer déjà à préparer tous ces éléments de rapport au cours de cette session parlementaire en collaboration avec ceux qui gèrent les provinces sous état de siège. Mais également au sujet des élections. Les auditeurs ont raison, parce que qu'adviendrait-il si, à la fin de 2023, les élections ne sont pas organisées? La CENI a présenté une feuille de route avec des contraintes. Or, si nous voulons maintenir la paix sociale, la tranquillité dans les différentes provinces de la RTC, nous ne pouvons pas nous exposer au risque d'un glissement. Voilà pourquoi, au cours de cette session, il est important que nous puissions contrôler quel est le niveau de financement accordé à la CENI. Nous avons suivi la guéguerre, le ping-pong entre le ministre des Finances et le président de la CENI, celui-ci qui dit n'avoir rien reçu, et l'autre pièce à l'appui qui dit j'ai donné autant. Et finalement, nous devons savoir quelle est
donc la les parlementaires doivent trancher,
fonds débloqués, quelle est la réalité autour de l'affectation de ces fonds-là, et prendre des mesures qui nous garantissent que, de manière apaisée, les élections transparentes seront organisées dans les délais.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Mouindo. Nous vous gardons encore en ligne. Il est temps de retrouver notre deuxième invité, Maître Paty Lendo. Maître Paty, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, je vous suis.
Alors, la question électorale, c'est vrai, il y a beaucoup de matière, comme l'ont dit certains auditeurs. Alors, quelle est votre réaction après avoir écouté les uns et les autres, qui, du reste, d'ailleurs, dans la majorité, ont appuyé la question électorale et la question de la situation sécuritaire dans la partie est du pays? Mais quant à l'amélioration des conditions de vie, d'aucuns estiment que, finalement, en une année, on ne peut pas résoudre ces problèmes qui constituent encore un talon d'Achille sur les pieds du gouvernement depuis des années maintenant. Quelle est votre réaction?
J'ai aimé la rationalité sur la mixture entre la commission conjointe de coordination Ouganda-RDC avec celle du maintien du gouvernement militaire au niveau des provinces. Il va de soi que l'un ne peut pas aller avec l'autre, donc il faudrait que et on a évoqué l'autorité qui a pris la décision par ordonnance de confier la direction des provinces aux militaires, de retirer cette ordonnance. Il va falloir que ces différentes provinces reviennent à l'administration normale, et d'autant plus qu'il y a déjà une coordination conjointe entre nos deux armées, et laquelle coordination à suivre les uns et les autres serait pratiquement en train de faire ce que devraient faire les gouverneurs militaires et leur administration. Mais aussi, à cette question, j'ai aussi aimé qu'on ait évoqué le contrôle. Vous savez, nous sommes, nous, de l'école de la méritocratie, nous n'avons aucune gouvernance sans contrôle, sans rédévabilité, sans rendement. Il faut que le gouvernement militaire rende compte, mais puisqu'il y a une structure, il y a une question qui a été posée. Mais comment ils font le budget de ces différentes entités? L'argent, comment il est géré? Ah non, il faut dire que les ministères qui ont été évoqués tantôt, la défense, la justice, l'intérieur. Pourquoi pas même les finances? Parce que l'argent qui a été mis à, qui a été mis à la disposition de ces militaires, c'est pas l'argent de l'armée, c'est l'argent du trésor public. Donc il faut quand même que nous habituons en fait à cette culture-là de contrôle, à cette culture-là de la redevabilité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on parle d'élection. Il a été dit le calendrier que le bureau, le nouveau bureau de la CENI a présenté. Mais il est en fait, je pourrais dire, enfoui, ce calendrier-là, dis-je, dans des contraintes. Et si vous observez bien ces contraintes, mais ces contraintes se résument qu'en termes d'argent d'abord. Mais si on n'a pas une bonne discipline financière pendant ce petit temps qui nous reste, mais nous allons céder, nous allons aller tout droit. Nous
oui, alors Maître Paty, pensez-vous qu'il y aura un débat transparent, un débat sérieux au niveau du Parlement sur cette question? D'abord, éclairer l'opinion sur cette guéguerre entre la CENI et le ministère des Finances, et aussi cette question de la défense qui repose d'ailleurs sur ce rapport de la commission de la défense qui date d'ailleurs d'une année, dont les niveaux d'exécution posent déjà problème au niveau de l'exécutif.
Je continue à croire qu'au sein de l'Assemblée nationale comme au sein du Sénat, il y a des députés ou des sénateurs qui font montre d'une certaine sagacité républicaine. Donc il ne faudrait pas me poser la question en termes « vous pensez » ou « je pense ». Ça se dégage même du sens de la République démocratique que nous avons adopté. La démocratie, c'est la redébabilité. Le débat citoyen, le débat de haute facture intellectuelle, pas le débat de la Kéchari et la quotidiennité de la basse vie publique, le débat de la construction de la République. Qui dit République? Ce n'est pas de la République à de la terre. Donc, qui est, nous avons un député autour de la question de vous, nous le saluons davantage, et nous pensons que les députés qui nous suivent ne sont pas des petits élèves. Ils doivent comprendre qu'ils tiennent leur mandat, non pas de leur, je ne sais pas quoi, mais tirent leur mandat du peuple souverain qui les a mandatés au sein des institutions, pas pour parler d'eux-mêmes, pas pour faire éclore les candidats de leur passion personnelle ou individuelle, pas non plus pour exceller dans leur boulimie égoïste ou égoïsante, mais c'est pour aider la République à aller de l'avant. Donc, je souligne et je persiste là-dessus, il faut qu'il y ait un débat sur la gestion de ces provinces par le militaire, il faut que le peuple sache combien a été les militaires, combien ils ont utilisé, et que des sanctions aussi arrivent. Si on ne doit pas sanctionner les militaires parce qu'ils sont militaires avec la tenue, mais il ne faudrait pas qu'on ramène la République au service des militaires. Tout ce que nous faisons. Mais nous ne le faisons pas que nous croyons la République. C'est pourquoi nous disposons notre temps pour parler et éclairer l'opinion de la population. Donc, il n'y a pas à penser, il faut qu'il y ait débat sur cette question-là. Ça, vraiment, je l'ai dit, paix sans rire et la main dans l'âme. Comme disait le maréchal Mobutu.
Voilà, merci beaucoup Maître Paty. Nous rappelons que vous êtes de l'opposition scientifique. Nous poursuivons, nous vous gardons toujours en ligne. Le temps d'accueillir d'autres auditeurs qui ont émis le vœu de pouvoir intervenir dans cette émission. Peter notamment, qui est à Kinshasa. Peter Mabouidi, bonjour Peter.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et bonjour aussi à l'invité.
La question sur la loi électorale et également c'est la situation sécuritaire doivent être des questions prioritaires au cours de cette session. Pensez-vous, comme certains observateurs qui soutiennent ces allégations?
Effectivement, Monsieur J.R., nous soutenons ce point de vue et cette opinion partagée par beaucoup des auditeurs. Ce que moi je voudrais dire, Monsieur J.R., nous avons un problème. Le problème, c'est que entre le dire et le faire, ça ne marche pas ensemble au Congo. Nous avions tous suivi la rentrée parlementaire d'hier, entre les deux chambres. Nous avions suivi le discours des deux présidents des deux chambres. Mais nécessairement, la question électorale est prioritaire, parce que aujourd'hui, si la CENI n'est pas outillée en termes de loi, vraiment, ça sera un blocage pour la tenue des élections en 2023. Alors, le Parlement doit d'abord nous aider par rapport aux lois concernant la CENI et également aussi le contrôle pour au sein du gouvernement pour que le gouvernement puisse financer les élections à temps record et aussi respecter les rubriques budgétaires. Concernant la situation sécuritaire, M. Juillard, je pense que la sécurité relève d'un pouvoir régalien d'un État souverain. Alors, un État souverain qui se dit souverain comme la RDC, nécessairement la sécurité devrait être au centre de l'action. Parce que sans sécurité, sans la paix, vraiment, ça sera difficile. Même les élections qu'on veut organiser. s'il y a des coins où il n'y a pas la paix, ça sera impossible de tenir d'organiser des élections dans ces coins, comme nous l'avions constaté en 2018, où certains coins, certains compatriotes ont été exclus, faute de quoi, suite à la sécurité. Alors, monsieur Julien, ce que je voudrais un peu ajouter davantage, c'est que la sécurité et la loi électorale concernant la CENI, ce sont des priorités auxquelles les députés doivent s'y pencher et avec la dernière énergie pour que le gouvernement puisse mettre les moyens à la disposition de la CENI et aussi de leur côté qu'ils puissent aussi produire des lois au temps opportun pour que la CENI puisse être outillée en temps aussi réel. Et également les contrôles, M. Juer. Je pense que pour la sécurité, les parlementaires doivent nous aider là-dessus parce que nous ne comprenons rien. On a pensé qu'avec l'installation de l'état de siège, tout pouvait bien marcher, mais aujourd'hui, c'est comme si tout s'empire davantage. Alors, ils doivent faire l'effort pour que les députés puissent contrôler les gouverneurs des provinces sous état de siège et également aussi le reste des institutions du pays. Je pense à mon humble avis, M. Jure, que nous avions eu à suggérer au gouvernement parce que nous sommes suivis partout et puis nous faisons partie de cette population qui souffre de jour et nuit. Et nous partageons la même douleur avec nos amis qui sont à l'est du pays. Mmh. Partant de ces constats, ce qui se passe à l'est et également ce qui a prévalu au Kasaï, nous avions estimé à notre avis qu'il fallait un projet qui pouvait aider le gouvernement pour décanter cette situation de la sécurité. Alors, jusqu'à aujourd'hui, même au niveau du Parlement, nous avions proposé un projet au gouvernement, même au niveau du Parlement, toutes les institutions du pays ont été saisies par rapport à ces projets concernant le maintien de la paix. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune institution n'est s'y penchée pour trouver des solutions adéquates concernant la paix des peuples congolais. Je pense que les députés doivent faire attention. S'ils ne parviennent pas à réussir de leur mission, je pense que certains députés seront aussi sanctionnés à la base. Et c'est là où ils doivent jouer aussi leur rôle en tant que parlementaires pour contrôler aussi voter des lois au profit de la population congolaise, M. Gilles.
Merci beaucoup, Peter, d'avoir appelé depuis Kinshasa. Et vous avez beaucoup plus insisté sur ces deux questions, notamment la loi électorale et aussi la situation sécuritaire, qui doivent être notamment des questions prioritaires au cours de cette session parlementaire. Faute de quoi, finalement, la population sanctionnera les députés qui ont été élus lors de la législature passée. Merci beaucoup, Peter. Et puis, on va prendre Maître Edmond. Maître Edmond, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gier. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes un Bandaka. Quel est votre avis?
Bon, merci. Je pense que pour les priorités qui doivent être faites pour cette rentrée parlementaire, je pense que, je m'excuse, comme nous sommes dans une année post-électorale, la première des choses, les députés nationaux et les sénateurs doivent miser plus sur la loi électorale, c'est-à-dire que les différentes innovations qui doivent permettre à la CENI de pouvoir amorcer le processus. Parce que il faut que je le dise, même parce qu'on dit aussi, on fait aussi allusion à la sécurité, mais je pense que si on insiste plus sur la sécurité, nos députés risquent d'oublier l'essentiel. Ils risquent de se focaliser sur l'état de siège et bouffer les l'argent qu'ils bouffent là pour siéger, pour projet de milliers de fois qu'ils font là. Moi, je pense que tout doit tourner autour de la loi électorale, parce que la sécurité, c'est pas une chose que l'Assemblée doit plus traité dans une session parlementaire. Parce que la sécurité est l'un des éléments importants du gouvernement et qui doit être permanent. C'est-à-dire que cet élément permanent, c'est le gouvernement qui doit faire en sorte que les sécurités soient éradiquées à l'Est, à l'Ituri, nord et qu'on sort. On ne peut pas focaliser toute une session sur la sécurité. Donc la session doit se focaliser sur les réformes. Et moi, je pense qu'ici, parmi les réformes, parce qu'on a écouté les uns et les autres, il y a aussi certaines choses qu'il faut élarguer, il y a certaines choses qu'il faut ajouter dans la Constitution. Je pense que pour moi, je propose même aux députés de pouvoir revoir la Constitution s'il faut que nous puissions passer dans un référendum ou s'il faut la ligne de révision simple qu'il les fasse rapidement pour que la CENI soit à mesure de pouvoir organiser les élections sans lesquelles nous aurons un glissement. Mais les autres points, les autres lois, les lois Tchani, les autres, ce sont des choses secondaires, ce sont des choses qui ne sont pas importante qui nécessite que la loi électorale d'abord soit révisée et qu'on puisse avoir des innovations les plus vite possible.
Merci beaucoup, Maître Edmond. Alors, on revient à vous, honorable Jean-Baptiste Mouindou, élu du Nord-Kivu. Quelle est votre réaction après avoir écouté Maître Edmond, qui semble, disons, placer la situation, la question sécuritaire, et comme un devoir régalien du pouvoir public et de manière permanente?
Il a partiellement raison. Néanmoins, au cours de cette session, il sera question d'évaluer les niveaux d'exécution des recommandations pertinentes votées par l'Assemblée nationale et le Sénat au cours de la session de septembre dernier. Figurez-vous, JR, en acceptant de proroger l'état de siège, eh bien, le Parlement a pris le risque d'accorder au gouvernement des pouvoirs exorbitants. Et comme je l'ai dit, le Parlement est allé jusqu'à voter la loi d'habilitation. 90 jours durant, le gouvernement a prorogé l'état de siège sans avoir de compte à rendre devant la représentation nationale. Des moyens conséquents ont été débloqués à terme de millions de dollars. Je suis de la commission défense et sécurité, je sais de quoi je parle. Mais ces fonds-là n'ont pas été visibles sur le terrain. Des évaluations ont été faites, aussi bien par le ministre de la Défense, je fais partie de la délégation qui a fait Goma, Beni, Bounia, mais également évaluation par l'Assemblée nationale. À l'issue de ces deux rapports d'évaluation, des mesures fortes étaient attendues. Manifestement, le gouvernement n'a pas pris ces mesures-là. Et aujourd'hui, eh bien, les membres du gouvernement doivent rendre compte. Parce que, je suis d'avis, la sécurité est une question permanente, régalienne. Mais des bases doivent être posées pour que un taux de 7 personnes tuées par jour, mes chers compatriotes, c'est inacceptable, alors que l'armée vous dit, les officiers vous disent, qu'ils sont en mesure de mettre fin à ce phénomène des IDF, des ADF, au bout d'un mois, de deux mois, si et seulement si le gouvernement mettait en application les recommandations que nous avons formulées, voilà, après avoir écouté les points de vue des militaires sur les terrains des uns et des autres.
Voilà.
Donc voilà de quoi il s'agit. Mais pour ce qui est de la cité, je voudrais attirer l'attention ici de l'opinion que d'un côté, le Parlement doit faire sa part à voter les lois, à contrôler les niveaux de finances octroyées à la CENI, mais les organisations de la société civile, les églises, devraient également faire les contrôles citoyens, notamment autour de la façon dont l'administration de la CENI est mise à plat. Il ne faudrait pas que les secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI et même les structures dans le territoire soient transformées à des parlements debout, des partis membres d'une certaine famille politique pour hypothéquer la transparence des élections. Et ça exige que les contrôles autour de la mise en place des animateurs de la CENI soient faits par, aussi bien par l'Assemblée que par les citoyens. Nous risquons d'être surpris que ce soit voilà, des militants, des partis politiques qui soient désignés et que
voilà, finalement, honorable Jean-Baptiste,
des élections tant attendues par les
Congolais
et pour lesquelles ces fonds importants ont été débloqués ne soient transformés en fiasco pour mener les Congolais de désespoir en désespoir. Donc d'un côté, le Parlement doit faire son travail et traduire la vigilance des Congolais qui nous interpelle à la matière, mais que l'autre côté, de la même manière que des structures comme ODEP et autres font les
contrôles de la défense publique. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste, et nous considérons ça comme la conclusion. Alors, on va prendre Maître Paty en deux phrases. Maître Paty, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous demandez aux députés? Vous êtes de l'opposition scientifique.
Non, mais vous venez de vous rendre compte que la moisson, elle est si abondante. Donc, et l'agon de nos mères publiques, les tralala, les blablabla, les ceci, les cela. Engageons-nous dans les temps. Nous savions, nous tous, où nous sommes. Car au bout de 3 ans, 4 ans, la question électorale va devoir se reposer. Mais qu'avons-nous fait? Vous avez suivi les différentes interventions. Le gouvernement qui a fait un programme, lequel le programme avait pour socle le développement du niveau social du peuple. Mais le peuple se demande par où est passé ce développement social, par où est passé l'allègement de la misère du peuple. En tout cas, à travers les lignes du ciel, il faut les dévaincir. Donc ça, ce sont des forces. Et les députés étaient là pour contrôler pendant les points de l'année. Nous en sommes à la quatrième année, c'est l'année électorale. Nous savons, nous tous, dans nos mains, le remous que charrie une pareille année. C'est l'ancien que nous avons déjà vécu.
Voilà.
Donc, il faut que nous écoutions le temps par le travail, pas par le travail chanté, le travail miné, mais par le travail pour des résultats qui devaient booster le nom de la République.
Merci beaucoup, Maître Paty. Voilà, on ne saura pas aller plus loin. Maître Paty, s'il vous plaît, on ne saura pas aller plus loin avec vous dans ces débats. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous, Maître Paty Lendo, de l'opposition scientifique. Merci également à l'honorable Jean-Baptiste Mouindo. Je crois que nous allons nous retrouver dans un autre débat, toujours et encore avec vous, pour éclairer l'opinion nationale, internationale sur cette question. Merci à vous tous qui avez également participé à ces débats. Merci aussi à Alain Goy et à Jiré, Madame Jiré, qui a réalisé cette émission. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.